Les derniers jours de Pompéi, livre 3, chapitre 1. Le forum des Pompéiens, ébauche du premier mécanisme au moyen duquel la nouvelle ère du monde fut préparée. La matinée n'était pas encore avancée et le forum se trouvait déjà rempli de gens affairés et oisifs. De même que de nos jours à Paris, dans les villes d'Italie, à cette époque, les habitants vivaient presque constamment hors de chez eux. Les édifices publics, le forum, les portiques, les bains, les temples eux-mêmes pouvaient être considérés comme leur véritable demeure. Il ne faut pas s'étonner qu'ils décorassent si magnifiquement ces places favorites de réunion, pour lesquelles ils ressentaient une sorte d'affection domestique non moins qu'un orgueil public. Le forum de Pompéi était en particulier singulièrement animé à cette heure. Le long de son large pavé, composé de grandes dalles de marbre, plusieurs groupes assemblés conversaient ensemble avec cette habitude énergique qui approprie un geste à chaque mot et qui est encore un des signes caractéristiques des peuples du Midi. Là, par un des côtés de la colonnade, on voyait assis dans sept boutiques les changeurs de monnaie avec leurs trésors étalés devant eux, tandis que les marchands et les marins, dans des costumes variés, entouraient leurs échoppes. De l'autre côté, des hommes en longue toge montaient rapidement les degrés d'un magnifique édifice où les magistrats administraient la justice. Il y avait là des avocats actifs, bavards, diseurs de bons mots, faiseurs de pointe, comme on en fait à Westminster. Au centre de l'espace, des piédestaux supportaient diverses statues, dont la plus remarquable était celle de Cicéron, d'un aspect imposant. Autour de la cour s'élevait une colonnade régulière et symétrique d'architecture dorique, où plusieurs personnes, appelées dans ce lieu par leurs affaires, prenaient le léger repas qui forme le déjeuner d'un Italien, en parlant avec animation du tremblement de terre de la nuit précédente, et en trempant des morceaux de pain dans leur vin mêlé d'eau. On apercevait aussi dans l'espace ouvert diverses espèces de marchands exerçant leur commerce. L'un présentait des rubans à une belle dame de la campagne, l'autre vantait à un robuste fermier l'excellence de ses chaussures, un troisième, une espèce de restaurateur en plein vent, tel qu'il s'en trouve encore dans les villes d'Italie, fournissait à plus d'une bouche affamée des mets sortis tout chauds de son petit fourneau ambulant. À quelques pas, comme pour caractériser le mélange d'intelligence et de confusion de tout temps, un maître d'école expliquait à ses disciples embarrassés les éléments de la grammaire latine. Une galerie placée au-dessus du portique, à laquelle on montait par un escalier de bois, était aussi remplie d'une certaine foule. Mais, comme la principale affaire du lieu se traitait là, les groupes en cet endroit avaient un air plus tranquille et plus sérieux. De temps à autre, la foule d'en bas s'ouvrait pour laisser passer respectueusement quelques sénateurs qui se rendaient au temple de Jupiter, situé sur l'un des côtés du forum et lieu de réunion des sénateurs. Ce haut personnage saluait avec une orgueilleuse condescendance ceux de ses amis ou de ses clients qu'il distinguait dans les groupes. Au milieu des habits pleins d'élégance des personnes du premier rang, on remarquait les rudes vêtements des paysans voisins qui allaient au grenier public. Près du temple, on avait devant soi l'Arc de Triomphe et la longue rue qui s'étendait au-delà toute remplie d'habitants. De l'une des niches de l'arc jaillissait une fontaine dont les eaux étincelaient aux rayons du soleil. S'élevant au-dessus de la corniche, la statue équestre en bronze de Caligula contrastait fortement avec le pur azur d'un ciel d'été. Derrière les boutiques des changeurs de monnaie se trouvait l'édifice qu'on appelle maintenant le Panthéon. Une multitude de pauvres Pompéiens traversaient, leur panier sous le bras, le petit vestibule qui conduisait à l'intérieur, pour se rendre à la plateforme placée entre les deux colonnes. C'était là que se vendaient les viandes soustraites par les prêtres au sacrifice. Des ouvriers travaillaient aux colonnes de l'un des édifices publics appropriés aux affaires de la cité. On entendait le bruit que faisaient éclater par moments les rumeurs de la foule. Les colonnes sont restées jusqu'à ce jour sans avoir été terminées. En résumé, rien ne pouvait surpasser en variété les costumes, les rangs, les manières, les occupations de cette multitude. Rien ne pouvait surpasser le désordre, la gaieté, l'animation, le flux et le reflux de la vie qui régnait alentour. Vous aviez sous les yeux les mille indices d'une civilisation bouillante et fiévreuse, où le plaisir et le commerce, l'oisiveté et le travail, l'avarice et l'ambition, confondaient dans un même golfe leurs flots bigarrés, impétueux mais dont le cours ne manquait pas d'harmonie. Devant les degrés du temple de Jupiter, un homme d'environ 50 ans se tenait les bras croisés, en fronçant les sourcils d'un air méprisant. Son costume était des plus simples, moins pourtant en raison de l'étoffe qui les composait, qu'à cause de l'absence des ornements dont les Pompéiens de toute classe avaient l'habitude d'user, soit par ostentation, soit parce qu'ils offraient en général les formes que l'on considérait comme les plus efficaces pour résister aux attaques de la magie et à l'influence du mauvais œil. Son front était élevé et chauve. Le peu de cheveux qui lui restait derrière la tête était caché par une sorte de capuchon qui faisait partie de son manteau et qui pouvait se baisser, se relever à volonté. En ce moment, sa tête recouverte à moitié était ainsi défendue contre les ardeurs du soleil. La couleur de ses vêtements était brune, couleur peu estimée des Pompéiens. Il semblait avoir évité avec soin tout mélange de pourpre et d'écarlate. Sa ceinture contenait un pli pour enfermer un encrier attaché par un crochet, ainsi qu'un style et des tablettes d'une certaine grandeur. Ce qu'il y avait de plus remarquable, c'était l'absence de toute bourse, quoique la bourse formât une partie indispensable de la ceinture, même lorsque la bourse avait le malheur d'être vide. Il n'était pas ordinaire aux gais et égoïstes habitants de Pompéi de s'occuper à observer le maintien ou les actions de leurs voisins. Mais la bouche et les yeux de cet homme manifestaient une expression si amère et si dédaigneuse, pendant que la procession religieuse montait des degrés du temple, qu'il ne pouvait manquer d'attirer l'attention de beaucoup de personnes. « Quel est donc ce cynique ?» demanda un marchand à un joaillier, son confrère. Ben, « C'est Olatus, » répondit le joaillier. « Il passe pour un Nazaréen. » Le marchand frissonna. « Secte terrible !» reprit-il d'une voix basse et tremblante. « On dit que lorsqu'ils s'assemblent la nuit, ils commencent toujours leur cérémonie par le meurtre d'un enfant nouveau-né. Ils professent la communauté des biens. Oh, que deviendraient les marchands, les joailliers, si de pareilles idées prenaient consistance ?» « Cela est bien vrai, » dit le joaillier, « d'autant qu'ils ne portent pas de bijoux. Ils poussent des imprécations lorsqu'ils voient un serpent, et tous nos ornements à Pompéi ont la forme du serpent. Oh, « Faites-moi le plaisir de remarquer, » ajouta un troisième interlocuteur, qui était fabricant de bronze, « comme ce Nazaréen secoue la tête avec pitié en voyant passer la procession. Il murmure quelque chose contre le temple, cela est sûr. » « Savez-vous, Célénus, que cet homme, passant devant ma boutique l'autre jour, et me voyant occupé à travailler une statue de Minerve, me dit avec un froncement de sourcils que si elle avait été de barbe, il l'aurait brisée, mais que le bronze était trop dur pour lui. « Briser une déesse ?» m'écriai-je. « Une déesse !» répondit l'athée. « C'est un démon, un malin esprit !» Il passa alors son chemin en maudissant les dieux. Cela peut-il se tolérer, mais qu'y a-t-il de surprenant à ce que la terre se soit soulevée la nuit dernière, désireuse sans doute de rejeter l'athée de son sein? Que dit un athée pique cela, un homme qui méprise les beaux-arts? Malheur à nous, autres habitants du bronze, si de tels compagnons venaient à donner des lois à la société! Mais ce sont là des mendiants qui ont brûlé Rome sous Néron, murmura le joaillier. Pendant ces remarques provoquées par la physionomie et par la foi du Nazaréen, Olympus commença à s'apercevoir de l'effet qu'il produisait. Il tourna les yeux autour de lui et observa les figures attentives de la foule grossissante où chacun se parlait à l'oreille en le regardant. Il jeta de son côté sur la foule un regard de défiance d'abord et puis de compassion. Enveloppé ensuite dans son manteau, il passa en murmurant assez haut pour être entendu. « Aveugles idolâtres, la convulsion de la dernière nuit n'a-t-elle pas donc été pour vous un avertissement? Hélas, en quel état vous trouvera le dernier jour du monde ?» La foule, qui entendit ces paroles solennelles, leur donna diverses interprétations selon le degré de crainte et d'ignorance de chacun. Tout le monde s'accorda du moins à reconnaître le caractère d'une épouvantable imprécation. Il regardait le chrétien comme l'ennemi de l'humanité. Les épithètes qui lui décochaient, et parmi lesquelles celle d'athée était la plus commune et la mieux reçue, peuvent servir à nous apprendre maintenant que la foi d'Olympus, qui est la nôtre, a triomphé et que nous aurions tort de nous livrer à l'égard de ceux qui ne pensent pas aujourd'hui comme nous aux injures dont on accablait les doctrines de notre religion. L'Olympus, en traversant la foule et en gagnant une des issues les moins fréquentées du forum, reconnut aisément une figure pâle et sérieuse dont les yeux étaient fixés sur lui. Couvert d'un pallium qui voilait en partie ses habits sacrés, le jeune Apaïsides contemplait le disciple de cette nouvelle et mystérieuse croyance à laquelle il avait été déjà à moitié converti. « Est-ce aussi un imposteur, se dit-il, cet homme si simple dans sa vie, dans son costume, dans son maintien? Cache-t-il sous le masque de l'austérité la concupiscence la plus effrénée? Le voile de Vesta recouvre-t-il les vices d'une prostituée ?» Olympus, accoutumé à voir des personnes de toute classe et qui réunissaient à l'enthousiasme de sa foi une profonde connaissance des hommes, devina peut-être à l'air d'Apaïsides ce qui se passait dans le cœur du jeune prêtre. Il prévint son examen et, l'abordant avec un regard ferme, un front serein, une franchise pleine de candeur, « Que la paix soit avec toi, » dit-il en le saluant. « La paix, » reprit le prêtre d'une voix si profondément triste qu'elle alla droit au cœur du Nazaréen. « Ce souhait, continua Olympus, ne renferme que de bonnes choses. Sans la vertu, il n'y a pas de paix. La paix est semblable à l'arc-en-ciel qui repose sur la terre, mais dont la voûte est dans les cieux. Le ciel le baigne de teintes de lumière. Il se forme au milieu de la pluie et des nuages. Il est la réflexion de l'éternel soleil, l'assurance du calme, le gage d'alliance entre l'homme et Dieu. Telle est la paix, ô jeune homme. » C'est le sourire de l'âme, une émanation des sphères de l'éternelle lumière. Que la paix soit avec toi. Hélas, répondit Apaïsides, et il s'interrompit en remarquant les regards des oisifs curieux qui se demandaient ce qu'il pouvait y avoir de commun entre un Nazaréen reconnu et un prêtre d'Isis. Il ajouta pourtant, à voix basse, « Nous ne pouvons converser ici. » Je veux te suivre sur les bords de la rivière. Il y a, tu sais, un chemin qui, à cette heure, est solitaire et désert. » Olympus s'inclina en marque d'assentiment. Il traversa les rues d'un pas rapide, mais avec un œil observateur. Ça et là, il échangea un regard d'intelligence, un léger signe avec quelques passants, dont la toilette indiquait généralement qu'ils appartenaient aux divers rangs de la société. Car le christianisme fut en cela le type de beaucoup d'autres révolutions moins considérables. La bonne graine était dans le cœur des petits. C'était dans les cabanes de la pauvreté et du travail que ce vaste fleuve, qui devait baigner les cités et les palais de la terre, prit sa source méprisée alors. Chapitre 2. Excursion matinale sur les mers de la Campanie. Dites-moi, demanda Ioné à Glaucus pendant qu'il glissait dans un bateau de promenade sur le limpide Sarnus, comment Apaïsides et vous êtes venu me délivrer de cet homme? Demandez plutôt à Nydia, répondit l'Athénien en montrant la jeune aveugle qui était assise non loin d'eux, appuyée sur sa lyre. C'est elle, ce n'est pas nous que vous devez remercier. Il paraît qu'elle est venue chez moi et que ne me trouvant pas dans ma demeure, elle a pénétré jusque dans le temple d'Isis pour chercher votre frère. Ils partirent pour se rendre chez Arbacès. En route, ils me rencontrèrent au milieu de quelques amis. J'étais si heureux de votre excellente lettre que je m'étais joint volontiers à leur troupe joyeuse. L'oreille si fine de Lydia reconnut ma voix sans peine. Peu de mots suffirent pour me faire accompagner à Païsides. Je me gardais de dire à mes amis pourquoi je les quittais. Pouvais-je livrer votre nom à leur langue légère et au bruit du monde? Or, Nydia nous conduisit à la porte du jardin, par laquelle, plus tard, nous vous avons ramené. Nous entrâmes et nous allions nous plonger dans les détours mystérieux de cette maison de malheur, lorsque votre cri nous fit prendre une autre direction. Vous savez le reste. Ioné rougit vivement, puis ses yeux s'arrêtèrent sur ceux de Glaucus, et il comprit toute la gratitude qu'elle ne pouvait pas exprimer. « Viens ici, ma Nydia, » dit-elle tendrement à la Thessalienne. « N'avais-je pas raison d'assurer que tu serais ma sœur et mon amie? N'as-tu pas déjà été plus que cela, ma gardienne, ma libératrice ?»« Mais je n'ai fait que mon devoir, » répondit Nydia avec froideur et sans bouger. « Ah oui, j'oubliais, » poursuivit Ionié, « que c'était à moi d'aller vers toi. » Elle se glissa le long du bateau jusqu'à l'endroit où Nydia était assise et, jetant ses bras avec tendresse autour de la jeune fille, couvrit ses joues de baisers. Nydia était ce matin-là plus pâle que d'habitude et sa pâleur s'accrut encore pendant qu'elle se prêtait à regret aux embrassements de la belle Napolitaine. « Mais comment as-tu deviné si exactement, Nydia ?» continua Ioné. Le danger auquel j'étais exposé. Connaissais-tu donc l'Égyptien? Oui, je connaissais ses vices. Et comment? Noble Ioné, j'ai été esclave chez des gens vicieux. Ceux que je servais étaient les ministres de ses plaisirs. Et tu as pénétré dans sa maison, puisque tu connaissais si bien cette secrète entrée. « J'ai joué de la lyre chez Arbacès, » répondit la Thessalienne avec embarras. « Et tu as pu échapper à la contagion dont tu as préservé Ioné, » reprit la Napolitaine en baissant la voix, de manière à n'être pas entendue de Glaucus. « Noble Ioné, je n'ai ni beauté ni rang. Je suis une enfant, une esclave, une aveugle. Ceux qu'on méprise sont en sûreté. » Nydia prononça d'un ton mêlé de douleur, de fierté et d'indignation cette humble réponse, et Ioné comprit qu'elle blesserait la jeune fille en continuant ses questions. Elle demeura silencieuse, et le bateau entra en ce moment dans la mer. « Avouez, Ioné, dit Glaucus, que j'ai eu raison de vous empêcher de passer cette belle matinée dans votre chambre. Avouez que j'ai eu raison. » « Oui, vous avez eu raison, Glaucus, » s'écria Nydia brusquement. « L'aimable enfant parle pour vous, » reprit l'Athénien, « mais permettez que je me mette en face de vous de peur que notre léger bateau ne vienne à chavirer. » En parlant ainsi, il se plaça devant elle. Et se penchant de son côté, il s'imagina que c'était l'haleine d'Ioné et non celle de l'été qui, de son souffle, parfumait la mer. Vous avez à m'apprendre, dit-il à Ioné, pourquoi votre porte m'a été fermée pendant quelques jours. Oh, ne parlons pas de cela, répondit-elle avec vivacité. J'ai prêté l'oreille à ce que je sais maintenant être la malice et la calomnie. Et mon calomniateur était l'Égyptien. Le silence d'Ionée répondit à cette question. Ses motifs sont suffisamment dévoilés. Écartons son souvenir, dit Ionée en couvrant son visage de ses mains, comme pour cacher la confusion que lui causait la pensée de cet homme. Peut-être est-il à présent sur les mornes rives du Styx, dit Glaucus. Cependant, s'il en était ainsi, nous aurions entendu parler de sa mort. Il semble que votre frère ait ressenti l'affluence de l'âme ténébreuse d'Arbacès. Lorsque nous sommes arrivés la dernière nuit chez vous, il l'a quitté subitement. Voudra-t-il jamais accepter mon amitié? Il est consumé par un chagrin secret, répondit Ionée d'un air triste. Plutôt Dieu que nous puissions l'arracher à lui-même. Unissons-nous pour cette bonne action. Mais ce sera mon frère, répliqua le grec. Avec quel calme, reprit Ionée, en s'efforçant d'échapper à la sombre tristesse où le souvenir d'Apaïsides l'avait plongé, avec quel calme les nuages semblent reposer dans le ciel. Et cependant vous m'avez dit, car je n'en ai pas eu connaissance par moi-même, qu'un tremblement de terre a eu lieu cette nuit. En effet, et plus violent, dit-on, que tous ceux qui se sont produits depuis la grande convulsion d'il y a 60 ans. Le royaume de Pluton, qui s'étend sur notre campagne ardente, a paru agité d'une commotion inaccoutumée. N'as-tu pas senti la terre trembler, Nydia, dans l'endroit où tu étais assise? Et n'est-ce pas la peur qui a fait couler tes larmes? Oui, j'ai senti la terre s'agiter et remuer sous moi comme un monstrueux serpent, répondit Nydia. Et comme je ne voyais rien, je n'ai pas eu d'effroi. Je me suis figuré que cette convulsion provenait de la magie de l'Égyptien. On dit qu'il commande aux éléments. Tu as été salienne, ma Nydia, reprit Glaucus, et tu as par origine le droit de croire à la magie. La magie, mais qui doute de la magie? Répliqua Nydia avec naïveté. Est-ce vous? Jusqu'à la dernière nuit, où un prodige de la nécromancie m'a subjugué, je n'avais-vous pas voulu croire à d'autre magie qu'à celle de l'amour, dit Glaucus d'une voix tendre et en attachant ses yeux sur Ionée. Ah, dit Nydia avec une sorte de frisson, et elle tira machinalement quelques sons de sa lyre. Cette harmonie s'accordait bien avec la tranquillité des eaux et le calme du soleil du midi. Joue-nous quelque chose, chère Nydia, dit Glaucus. Joue un de tes vieux airs thessaliens. Que ton chant parle de magie ou non à ton choix, mais qu'il parle d'amour. D'amour, répéta Nydia en levant des grands yeux incertains qu'on ne pouvait regarder sans un sentiment de crainte et de pitié. On ne se familiarisait pas avec leur aspect, car il semblait étrange que leurs globes errants et nous, noirs, ignorassent la lumière, avec leur regard quelquefois mystérieux et fixe, quelquefois inquiet et troublé, de sorte qu'en le regardant, on éprouvait la même impression vague, glaçante et presque surnaturelle qu'on éprouve en présence d'une personne privée de la raison, de celle qui, ayant une vie extérieure comme la nôtre, ont de plus une vie intérieure différente, inexplicable, impossible à saisir. Vous voulez donc un chant d'amour? Dit-elle en fixant ses yeux sur Glaucus. Oui, répliqua-t-il en baissant les yeux. Nydia éloigna le bras d'Ionée qui était encore autour d'elle, comme si cette douce étreinte la gênait, et plaçant son léger et gracieux instrument sur ses genoux, elle chanta, après un court prélude, la chanson suivante. La chanson d'amour de Nydia. Le vent et le rayon aimaient tout de la rose, épris de son éclat vermeil. Mais qui chérit le vent, amant jaloux, morose? La fleur n'aimait que le soleil. Personne ne savait vers quel lointain rivage l'aile du vent allait frémir. Personne, dans la voix des plus simples orages, n'entendait une âme gémir. Heureux rayon, tu vois à la moindre caresse l'amour doucement s'éveiller. Ta clarté te suffit pour prouver ta tendresse, tu n'as qu'à paraître et briller. Comment le vent peut-il révéler sa souffrance? L'effroi partout suit son soupir pour prouver son amour. Amour sans espérance, il ne lui reste qu'à mourir. Ton chant est triste, douce enfant, dit Glaucus. Ta jeunesse ne sent encore que l'ombre de l'amour. Il éveillons-nous bien d'autres inspirations lorsqu'il éclate et nous illumine. Je chante ce qu'on m'a appris, répliqua Nydia en soupirant. Ton maître était alors malheureux en amour. Essaye quelque chose de plus gai, ou plutôt, mon enfant, donne-moi l'instrument. Nydia obéit, et sa main rencontra celle de Glaucus. À ce léger toucher, son sein s'agita, et sa joue se couvrit de rougeur. Ionée et Glaucus, occupés l'un de l'autre, n'aperçurent pas les signes des émotions étranges et prématurées qui faisaient battre son cœur, tout plein d'un amour auquel l'imagination tenait lieu d'espérance. Large, azurée, brillante devant eux, s'étendait alors cette mer tranquille, qu'après 17 siècles, je revois en ce moment, aussi belle caresser ses divins rivages. Beau climat qui nous énerve encore, comme si la magicienne Circé y exerçait toujours ses enchantements, qui nous met insensiblement et mystérieusement en harmonie avec toi par une douce fusion, qui bannit la pensée d'un austère travail, couvre la voix de l'ambition effrénée et le bruit de la vie et de ses combats, qui nous remplit de rêves agréables et charmants, ne rendant nécessaire à notre nature que ce qu'il y a de moins matériel, jusqu'à ce que l'air lui-même nous inspire le besoin et la soif de l'amour. Quiconque te visite semble laisser derrière lui la terre et ses rudes soins pour entrer par la porte d'ivoire dans le domaine des songes. Les heures jeunes et riantes du présent, ces heures, ces filles de Saturne que leur père est avide de dévorer, paraissent échapper à ton étreinte. Le passé, l'avenir, sont oubliés. Nous ne jouissons que du temps qui passe. Fleurs du jardin du monde, fontaines de délices, belles et heureuses campanies, il fallait que les titans fussent bien vains pour désirer un autre ciel que ce divin séjour. Si Dieu avait voulu que notre vie, péniblement vouée au travail, ne fût qu'un long jour de fête, qui ne voudrait habiter là pour toujours, sans rien demander, sans rien désirer, sans rien craindre, pendant que les cieux sourient à nos regards, pendant que les mers étincellent à nos pieds, pendant que les airs légers nous apportent les parfums des violettes et des orangers, pendant que nos cœurs, résignés à ne connaître qu'une émotion, rencontreraient des yeux et des lèvres qui leur persuaderaient, vanité des vanités, que l'amour, bravant l'usage, peut ici-bas être éternel. Le récit des passions humaines dans les temps passés emprunte un intérêt même de la distance des temps. Nous aimons à sentir en nous le lien qui nous unit aux époques lointaines. Les hommes, les nations, les mœurs ont péri. Les affections demeurent immortelles. Ce sont les sympathies qui joignent entre elles les générations incessantes. Le passé revit lorsque nous retrouvons ses émotions. Il revit dans les nôtres. Ce qui était existe encore. L'art du magicien qui ressuscite les morts, qui ranime la poussière des tombes oubliées, n'est pas dans l'habileté de l'auteur, mais dans l'âme du lecteur. Cherchant toujours les yeux d'Ionée à moitié baissés, à moitié détournée en évitant les siens, l'Athénien, d'une voix douce et lente, exprima ainsi les sentiments inspirés par des pensées plus heureuses que celles qui avaient donné leur couleur à la chanson de Nydia. Le chant de Glaucus. Vois la barque flotter sur cette mer dorée, ainsi flotte mon cœur sur mon profond amour. Ton visage céleste, ô ma belle adorée, ton visage est pour moi la lumière du jour. Mon cœur a ton désir où s'élève ou s'abaisse, c'est toi seul qui fais ou sa joie ou ses maux sur l'océan de ma jeunesse. Tes yeux brillent, astres jumeaux. La barque peut sombrer, prise par la tempête, mon cœur aussi redoute un orage soudain. Tout sourit à présent, la nature est en fête, mais quel trouble infini produirait ton dédain? Il vaudrait mieux mourir dans ce jour plein de charme, si le temps me réserve un changement affreux. Si tu dois me coûter des larmes, que je meure du moins heureux. Et comme les derniers mots tremblaient encore sur les vagues, Ionée leva les yeux. Ils rencontrèrent les yeux de son amant. Heureuse Nydia, heureuse dans ton affliction, de n'avoir pu voir ce regard rempli de douceur et de fascination, qui disait tant de choses, qui donnait aux yeux la voix de l'âme, qui promettait une constance éternelle, l'impossibilité du changement. Mais, quoique la Thessalienne n'aperçût point ce regard, elle le devina par leur silence et par leur soupir. Elle pressa ses mains sur son sein pour étouffer ses pensées amères et jalouses, et se hâta de parler car le silence était intolérable pour elle. « Après tout, dit-elle, Glaucus, il n'y a rien de bien gai dans votre chant. »« Ah, cependant, je le croyais tel, ma jolie Nydia, reprit Glaucus, lorsque j'ai pris ta lyre. Peut-être le bonheur ne nous permet-il pas la gaieté. » Qu'il est étrange, dit Ionée en changeant le sujet d'une conversation qui lui oppressait le cœur, tout en la charmant. Il est étrange que depuis plusieurs jours, ce nuage n'ait pas quitté le sommet du Vésuve. Non, pas pourtant qu'il soit immobile, car il change quelquefois de forme. Et maintenant, on dirait d'un géant qui étend les bras sur la cité. N'a-t-il pas cette ressemblance, ou n'est-ce qu'un effet de mon imagination ? Belle Ionée, il a cette apparence en effet très distincte. Le géant semble assis sur le haut de la montagne. Les ombres diverses des nuages lui forment une robe blanche qui enveloppe son vaste sein et ses membres. Il a l'air de regarder la ville d'un œil fixe, en montrant d'une main, comme vous le dites, ses brillantes rues, et levant l'autre, ne le remarquez-vous pas, vers le ciel. Il ressemble en vérité au fantôme de quelque colossal titan, qui réfléchit douloureusement sur le monde délicieux qu'il a perdu, avec le regret du passé, et la menace pour l'avenir. Cette montagne n'aurait-elle pas quelque rapport avec le tremblement de terre d'hier? On dit qu'autrefois, au temps les plus reculés de la tradition, elle vomissait des feux comme l'Etna. Hein, peut-être a-t-elle encore un ardent foyer dans son sein? Cela est bien possible, dit Glaucus d'un air rêveur. Mais vous prétendiez que vous ne croyiez pas à la magie, s'écria tout à coup Nydia. J'ai entendu dire qu'une magicienne puissante habite les cavernes brûlées de la montagne, et ce nuage n'est peut-être que l'ombre du démon qui confère avec elle. Tu as l'esprit tout plein des contes fantastiques de ta Thessalie, ta contrée natale, reprit Glaucus. Il y a en toi un singulier mélange d'idées raisonnables et de superstitions. On est toujours superstitieux dans l'obscurité, répliqua Lydia. Dites-moi, ajouta-t-elle après un court intervalle, dites-moi, Glaucus, toutes les choses qui sont belles se ressemblent-elles? On assure que vous êtes beau, qu'Ionée est belle. Vous ressemblez-vous? Je ne le crois pas, et pourtant cela devrait être. ne fais pas ce tort à Ionée, répondit Glaucus en riant. Nous ne ressemblons même pas autant qu'une personne qui est belle peut ressembler à une personne qui ne l'est pas. Les cheveux d'Ionée sont noirs, les miens blonds. Les yeux d'Ionée sont... Ah, de quelle couleur sont vos yeux, Ionée? Je ne puis bien les voir. Tournez-les de mon côté. Ah, ils sont noirs. Non, ils sont trop doux. Sont-ils bleus? Non, leur couleur est trop profonde. Ils varient à chaque rayon de soleil. Je ne puis pas saisir leur couleur. Mais les miens, douce Lydia, les miens sont gris et brillants seulement lorsque Ionée les regarde. La joue d'Ionée est... Je ne comprends pas un mot de votre description, interrompit Lydia avec amertume. Tout ce que je comprends, c'est que vous ne vous ressemblez pas. J'en suis contente. Pourquoi cela, Lydia ? Demanda Ionée. Lydia rougit légèrement, puis elle répondit froidement. Parce que mon imagination vous a toujours vu l'un et l'autre sous des formes différentes, et l'on tient à savoir si l'on a raison. Et à quoi as-tu imaginé que Glaucus ressemblait ? Dit Ionée. À la musique, répliqua Lydia en baissant la tête. Comparaison juste, Lydia, murmura Ionée. Et quelle ressemblance donnes-tu à Ionée? Je ne puis le dire, je ne la connais pas encore assez pour me faire une idée de sa personne. Je te le dirai donc, reprit Glaucus avec passion. Elle ressemble au soleil qui réchauffe, à la vague qui rafraîchit. Le soleil brûle quelquefois et la vague engloutit, répondit Lydia. « Prends donc ces roses, dit Glaucus, et que leur parfum t'offre une image d'Ionée. Hélas, les roses se fanent, ajouta la Napolitaine avec malice. En conversant ainsi, ils laissaient s'écouler les heures. Les amants, tout pleins du sourire et des joies de l'amour, la jeune aveugle, livrée dans son obscurité à toutes les tortures du cœur, aux cruelles angoisses de la jalousie, et à sa fatalité. Et tandis qu'il voguait, Glaucus reprit sa lyre et en toucha légèrement les cordes d'une main caressante, préludant à une mélodie si joyeuse et si belle que Lydia, attirée de sa rêverie, jeta un cri d'admiration. Tu vois, mon enfant, dit-il, que la musique de l'amour peut aussi s'inspirer de la gaieté. J'avais tort de dire le contraire. Écoute-moi, Lydia, écoute-moi. Chère Ionée, écoutez. La naissance de l'amour. Comme une étoile au sein de la voûte suprême, comme un songe au-dessus des vagues du sommeil, la déesse par qui l'on aime sort de l'ombre enchantée avec son front vermeil. Chypre, le ciel sourit à ton flot qui s'élève, l'arbre de la forêt sent bouillonner sa sève, la vie a circulé dans ce divin séjour, salut aux terres fortunées, la nature célèbre en tous lieux étonnés la naissance de l'amour. Fille des dieux, vois le zéphyr, sur ses ailes d'argent il accourt, il soupire, il déroule tes cheveux d'or, de ton sein qui palpite, il baise le trésor. Sur le sable où la vague expire, les saisons pour te voir viennent d'un prompt essor. Comme une perle au fond de sa conque sacrée, la déesse brille à nos yeux. Les reflets de l'émail dont la teinte est pourprée ajoutent à son teint leur éclat gracieux. Sur l'onde qui bondit, elle vogue avec joie. Déesse, nous t'appartenons. Pour réjouir la terre, un dieu puissant t'envoie. Salut, répands sur nous tes dons. Et toi, ma douce bien-aimée, quand tes yeux sont fixés sur ceux de ton amant, tu m'enivres comme elle, et mon âme charmée retrouve la déesse à ce premier moment. Elle sort de tes cils, comme jadis de l'onde, avec son air tendre et vainqueur. La voilà, la beauté qui gouverne le monde. De tes yeux adorés, elle passe en mon cœur. Chapitre 3. La réunion religieuse. Suivi par Apaseïdès, le Nazaréen gagne le bord du Sarnus. Cette rivière, qui n'est plus aujourd'hui qu'un petit ruisseau, se précipitait alors dans la mer, couverte de barques sans nombre, et réfléchissait dans ses eaux les jardins, les vignes, les palais et les temples de Pompéi. S'éloignant de ces rives bruyantes et fréquentées, Olatus dirigea ses pas vers un sentier qui s'égarait au milieu des arbres à peu de distance de la rivière. Cette promenade était le soir le rendez-vous favori des Pompéiens, mais pendant la chaleur et les occupations du jour, elle était rarement visitée, si ce n'est par quelques groupes d'enfants insouciants, par quelques poètes rêveurs ou quelques philosophes amis des discussions. À l'extrémité la plus éloignée de la rivière, des touffes de buis s'enlaçaient au feuillage plus délicat et plus éphémère des autres arbustes, taillés sous mille formes bizarres, quelquefois en faule, en satyre, quelquefois en pyramides égyptiennes, ou représentaient même en lettres les noms de quelques citoyens populaires ou éminents. Ainsi le fougou est aussi ancien que le bon goût, et les marches retirées de Cockney et de Paddington ne se boutaient pas peut-être il y a un siècle qu'en torturant leurs ifs et en scutant leurs buis, ils suivaient l'exemple de la période la plus polie de l'Antiquité romaine et prenaient pour modèle les jardins de Pompéi et la maison du trop élégant Pline. Cette promenade, à l'heure où le soleil du midi tombait perpendiculairement sur le feuillage varié, était entièrement déserte. Du moins, on y voyait en ce moment Colintus et le prêtre d'Isis. Ils s'assirent sur des bancs placés par intervalles entre les arbres, et en face de la faible brise qui arrivait languissamment de la rivière, dont les vagues dansaient et brillaient devant eux, et c'était un couple singulier, plein de contrastes, l'un croyant au plus nouveau, l'autre au plus ancien culte du monde. Depuis que vous m'avez quitté si brusquement, dit Olintus, avez-vous été heureux? Votre cœur a-t-il éprouvé quelque contentement sous votre robe de prêtre? Avez-vous, désoré du désir d'entendre la voix de Dieu, surpris quelques-uns de ses oracles dans celui temple d'Isis? Votre soupir et ce morne maintien semblent répondre d'avance à ma dernière prédiction. Hélas, répondit Apaïsides avec tristesse, vous voyez devant vous un homme misérable et désespéré. Dès mon enfance, j'ai divinisé le rêve de la vertu. J'ai envié le sort des hommes qui, dans les cavernes et dans les temples solitaires, ont été admis à pénétrer les secrets des êtres supérieurs à ce monde. Mes jours se sont consumés en de vagues et fiévreux désirs, mes nuits au milieu de décevantes mais solennelles visions. Séduit par les mystiques prophéties de l'imposteur, j'ai revêtu cette robe. Ma nature, oh, je vous l'avoue franchement, ma nature s'est révoltée de toutes les choses que j'ai vues et auxquelles il m'a fallu participer. Cherchant la vérité, je n'ai été que le ministre du mensonge. Le dernier soir où nous nous sommes vus, j'étais tout ébloui des espérances qu'avait fait luire à mes yeux l'imposteur, que j'aurais dû déjà mieux connaître. N'importe, il suffit de dire que j'ai ajouté le parjure et la faute à l'imprudence et au regret. Ah, le voile est tombé maintenant. Je ne vois plus qu'un misérable où j'avais cru voir un demi-dieu. La terre s'obscurcit pour moi. Je suis tombé au plus profond de l'abîme. Je ne sais plus s'il existe des dieux au-dessus de nous, si nous ne sommes pas les enfants du hasard. Si au-delà de ce présent triste et limité, il n'y a plus que le néant, ou s'il est un autre monde. Mais dites-moi donc, dites-moi quelle est votre croyance. Résolvez mes doutes, si vous en avez le pouvoir. Je ne m'étonne pas, répondit le Nazaréen, que vous ayez erré de la sorte et que vous en soyez venu à ce degré d'incertitude. Il y a 80 ans que l'homme n'avait encore aucune assurance de Dieu, ni d'un avenir certain et défini au-delà du tombeau. De nouvelles lois ont été déclarées à ceux qui ont des oreilles. Au ciel, un véritable Olympe est révélé à celui qui a des yeux. Écoutez-moi donc, prêtez-moi toute votre attention. Et avec tout le zèle d'un homme fermement convaincu et jaloux de convertir son prochain, le Nazaréen communiqua à Païsides les promesses de l'Écriture sainte. Il parla d'abord des souffrances et des miracles du Christ. Il pleurait en parlant. Il en vint bientôt à de glorieuses ascensions du Sauveur, aux prédications si claires de la Révélation. Il décrivit ce paradis pur, immatériel, destiné aux hommes vertueux, ces feux et ces tourments qui attendaient les pécheurs. Les doutes qui se sont manifestés dans les temps modernes, sous la plume de nos philosophes, sur l'immensité du sacrifice de Dieu à l'homme, n'étaient pas de nature à frapper un païen de cette époque. Apaïsides était habitué à croire que les dieux étaient descendus sur la terre pour y revêtir souvent des formes humaines, qu'ils avaient partagé nos passions, nos travaux et nos peines. Les travaux du fil d'Aclemen, dont les autels fumaient dans tant de villes, d'un encens universel, n'avaient-ils pas été entrepris pour le bien de la race humaine? Le grand Apollon dorien n'avait-il pas expié un crime mystique en descendant au tombeau? Ceux qui étaient devenus les divinités de l'Olympe avaient été les législateurs et les bienfaiteurs de la terre, et la reconnaissance avait conduit à l'adoration. Ce n'était donc pas pour les païens une doctrine nouvelle ni étrange que celle du Christ envoyé du ciel sur la terre pour y revêtir la forme humaine et connaître toute l'amertume du trépas. Quant au but pour lequel ce Dieu avait ainsi vécu et souffert, combien ne dit-il pas paraître plus glorieux à Apaïsides que celui pour lequel les anciennes divinités avaient désiré visiter le monde et y passer à travers les portes de la mort? N'était-il pas digne d'un Dieu de descendre dans ces sombres vallées pour dissiper les nuages rassemblés sur la montagne, éclaircir les doutes des sages, changer l'espérance en certitude, poser par son exemple les règles de la vie, résoudre par la révélation l'énigme de la tombe et prouver que l'âme ne faisait pas un vain rêve d'immortalité? Tel était surtout le grand argument de ces hommes déshérités des biens de la terre qui essayaient de la convertir. Comme il n'y a rien de plus flatteur pour l'orgueil et les espérances des hommes que la foi dans un état à venir, rien ne pouvait être plus vague et plus confus que les notions des sages du paganisme sur ce mystique sujet. Apaïsides avait déjà appris que la croyance des philosophes n'était pas celle du vulgaire, que s'ils reconnaissaient en secret un pouvoir divin, ils ne s'associaient pas réellement au culte dont ils croyaient la pratique utile au reste des hommes. Il avait déjà appris que le prêtre lui-même tournait en ridicule ce qu'il prêchait au peuple, que les idées du petit nombre et celles de la majorité ne s'accordaient jamais. Mais dans cette nouvelle religion, il lui semblait que philosophes, prêtres, peuple, ce qui expliquait la croyance et ce qui la suivait, agissaient de concert. Il ne spéculait pas, il ne raisonnait pas sur l'immortalité. Il l'admettait comme une chose évidente et assurée. La magnificence de la promesse l'éblouissait et adoucissait sa douleur. Car la foi chrétienne eut pour premier apôtre des pécheurs. Parmi les pères et les martyrs, beaucoup avaient connu l'amertume du vice. Ils avaient cessé d'être entraînés par ces faux attraits, loin des sentiers d'une vertu austère et irréprochable. Toutes les espérances de cette foi bienfaisante invitaient au repentir. Elles étaient particulièrement faites pour guérir les esprits malades et brisés. Et le remords qu'Apaïsides ressentait au souvenir de ses derniers excès le disposait à s'incliner devant un homme qui trouvait de la sainteté même dans ce remords et qui parlait de la joie du ciel à l'esprit d'un pécheur repentant. « Venez, dit le Nazaréen en s'apercevant de l'effet qu'il avait produit, venez dans l'humble lieu de nos assemblées, peu nombreuses encore, mais composées de cœurs d'élite. Écoutez nos prières, observez la sincérité de nos larmes de repentir. Prenez part au simple sacrifice, où nous n'offrons ni victime ni guirlande, mais où nous déposons nos âmes entières. Ces fleurs que nous répandons sur cet autel de notre cœur ne sont pas périssables. Elles s'épanouissent encore quand nous ne sommes plus. Oui, elles nous accompagnent au-delà du tombeau. Elles renaissent sous nos pas dans le ciel. Elles nous enivrent par leur parfum éternel, car elles viennent de l'âme et elles participent à sa nature. Ces offrandes sont les tentations surmontées, les péchés rachetés par le repentir. Viens, oh viens, ne perds pas un instant de plus. Dispose-toi déjà pour le grand, le redoutable voyage des ténèbres à la lumière, des chagrins au bonheur, de la corruption à l'immortalité. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur, un jour que nous avons consacré à nos dévotions. Quoique nous ne réussions ordinairement que la nuit, quelques-uns d'entre nous pourtant sont assemblés à cette heure. Quelle joie, quel triomphe ce sera pour nous tous si nous pouvons ramener une brebis égarée dans le sacré bétail, bercail. Apaïsides, dont le cœur était naturellement si pur, fut frappé de ce qu'il y avait de bienveillant et de généreux dans l'esprit qui animait les paroles d'Olynthus. En le voyant placer son bonheur dans le bonheur des autres, et dans sa vaste compréhension, chercher des compagnons pour l'éternité, il fut touché, consolé, subjugué. Il n'était pas d'ailleurs dans une situation d'âme à rester seul. Et puis la curiosité aussi se joignait à ses sentiments plus élevés. Il souhaitait vivement de voir ces rites sur lesquels on faisait courir tant de bruits sinistres et contradictoires. Il s'arrêta un moment, jeta un coup d'œil sur son costume, songea à Arbacès, éprouva un frisson d'horreur, fixa ses yeux sur le large front du Nazaréen inquiet et dont les traits exprimaient une noble et fraternelle attente pour son bonheur et pour son salut. Il jeta son manteau autour de lui de manière à cacher sa robe et dit « Conduis-moi, je te suis. » Olynthus lui serra la main avec joie, et descendant avec lui vers la rivière, il héla l'une des barques qui séjournait constamment. Les deux nouveaux amis y entrèrent et s'assirent sous une tente en toile qui servait en même temps à les protéger contre le soleil. Ils fendirent rapidement les eaux. Dans l'une des barques qui passèrent près d'eux et dont la poupe était couronnée de fleurs, ils entendirent une douce musique. Cette barque allait du côté de la mer. « Ainsi, dit Olynthus avec tristesse, voguent les adorateurs du luxe et des plaisirs, insouciants et pleins de gaieté dans leurs illusions, vers le grand océan des tempêtes et des naufrages. Tandis que nous, silencieux, et sans attirer l'attention, nous passons pour gagner le rivage. » Le regard d'Apaïsides avait distingué à travers les ouvertures de la tente le visage d'une des personnes assises dans cette joyeuse barque, C'était la figure d'Ionée. Les amants venaient de partir pour la promenade où nous les avons accompagnés. Le prêtre soupira et se laissa retomber sur son siège. Ils descendirent dans un faubourg près d'une allée bordée de maisons petites et grossières qui s'étendaient vers la rive. Ils renvoyèrent leur barque. Olynthus, marchant le premier, conduisit le prêtre d'Isis à travers un labyrinthe de ruelles jusqu'à la porte fermée d'une habitation un peu plus grande que celle dont elle était entourée. Ils frappèrent 3 coups, la porte s'ouvrit et se referma après qu'Apaïsides et son guide en eurent franchi le seuil. Ils traversèrent un chemin désert et arrivèrent à une chambre intérieure d'une moyenne étendue qui, lorsque la porte en était fermée, recevait la lumière du jour par une petite fenêtre située au-dessus de cette même porte. S'arrêtant sur le seuil de la chambre et frappant à la porte, Olynthus cria « Que la paix soit avec vous !» Une voix de l'intérieur répondit « La paix avec qui ?»« Avec le fidèle !» répondit Olynthus, et la porte s'ouvrit. 12 ou 14 personnes étaient assises en demi-cercle, silencieusement, et paraissant absorbées dans leurs pensées, en face d'un crucifix grossièrement sculpté en bois. Ces personnes levèrent les yeux lorsqu'Olynthus entra, sans dire un mot. Le Nazaréen lui-même, avant de leur parler, s'agenouilla sur le champ, et par le mouvement de ses lèvres, non moins que par ses yeux fixés sur le crucifix, Apaïsides comprit qu'il priait. Le rite accompli, Olynthus se tourna vers l'assemblée. « Hommes et frères, dit-il, ne vous étonnez pas de voir parmi vous un prêtre d'Isis. Il a demeuré avec les aveugles. » Mais l'esprit est descendu sur lui. Il désire voir, entendre et comprendre. Qu'il en soit ainsi, dit un des membres de l'assemblée. Et Apaïsides remarqua que celui qui venait de parler était plus jeune que lui, d'une physionomie également altérée et pâle, avec des yeux qui exprimaient les incessantes inquiétudes d'un esprit ardent et longtemps troublé. « Qu'il en soit ainsi !» répéta une seconde voix. Et celui qui parlait était dans la force de l'âge. Sa peau bronzée et ses traits asiatiques indiquaient un fils de la Syrie. Il avait été brigand dans sa jeunesse. « Qu'il en soit ainsi !» dit une troisième voix. Et le prêtre, se tournant vers celui qui venait de parler, aperçut un vieillard à longue barbe grise, dans lequel il reconnut un serviteur du riche Diomède. « Qu'il en soit ainsi !» murmurèrent les autres assistants, qui tous, à part 2 exceptions, appartenaient évidemment aux classes inférieures. Dans ces 2 exceptions, Apaïsides reconnut un officier de la garde et un marchand d'Alexandrie. « Nous ne vous recommandons pas le secret, » reprit Olynthus. « Nous ne vous ferons pas jurer, comme quelques-uns de nos frères plus timides pourraient le faire, de ne pas nous trahir. Il est vrai qu'il n'y a pas positivement de loi établie contre nous, mais la populace, plus sauvage que ceux qui la gouvernent, a soif de notre sang. Vous savez, mes amis, que pendant que Pilate hésitait, le peuple demandait à grands cris que le Christ fût attaché à la croix. Mais nous ne vous lions pas à notre sûreté. Non, livrez-nous à la foule. Accusez, calomniez, décriez-nous, si vous le voulez. Nous sommes au-dessus de la mort. Nous irons avec joie à la rencontre de la dent du lion ou des instruments de la torture. Nous nous élevons au-dessus de l'obscurité de la tombe. Et ce qui pour un criminel est la mort et l'éternité, pour un chrétien. Un murmure sourd d'approbation courut dans l'assemblée. Tu viens parmi nous en observateur, puisses-tu nous demeurer convertis? Notre religion, tu la vois? Notre croix est notre seule image. Ce livre, les mystères de notre Cérès et de notre Éleusis. Notre moralité, elle est dans notre vie. Nous avons tous été pécheurs. Qui peut maintenant nous accuser d'un crime? Le baptême a enlevé les taches du passé. Ne pense pas que celui-ci soit de nous, mais de Dieu. Approche, Médon, dit-il en s'adressant au vieil esclave qui avait parlé le troisième pour l'admission d'Apaïsides. Tu es le seul homme parmi nous qui ne jouisse pas de la liberté. Mais dans le ciel, le dernier sera le premier, et il en est de même parmi nous. Déroule ton manuscrit et explique la loi. Il serait inutile pour nous de suivre la lecture de Médon et les commentaires de l'Assemblée. Ces doctrines, alors étranges et nouvelles, nous sont familières. 18 siècles nous ont laissé peu de choses à apprendre sur tous les enseignements de l'Écriture et sur la vie du Christ. Il y aurait également peu d'intérêt pour nous dans les doutes qui pouvaient assaillir l'esprit du prêtre païen et dans les réponses d'hommes grossiers, rudes et simples, dont toute l'instruction consistait à savoir qu'ils étaient plus grands qu'ils ne paraissaient l'être. Une chose toucha profondément le Napolitain. Lorsque la lecture fut terminée, on entendit un léger coup frapper à la porte. Le mot d'ordre donné et la réponse faite, la porte s'ouvrit de nouveau, et deux enfants, dont l'aîné paraissait avoir 7 ans, entrèrent timidement. C'étaient les enfants du maître de la maison, de ce sombre et vigoureux Syrien dont la jeunesse s'était passée dans le pillage et dans le sang. Le plus ancien de l'assemblée, c'était le vieil esclave, leur tendit les bras. Ils s'y réfugièrent, ils s'attachèrent à son sein, il les caressa en souriant. Alors ces hommes hardis et fervents, nourris dans les vicissitudes, battus par les vents les plus rudes de la vie, hommes d'un courage de fer et qui ne connaissaient pas d'obstacles, prêts à affronter un monde entier, préparé pour les tortures et armé pour la mort, ces hommes qui présentaient tous les contrastes possibles avec les faibles nerfs, les tendres cœurs et la fragilité de leurs nouveaux compagnons, se pressèrent autour de ces jeunes enfants. Les rides s'adoucirent sur leur front et leurs lèvres à l'aspect sauvage sourirent avec aménité. Le vieillard ouvrit alors son rouleau et il apprit aux enfants à répéter cette magnifique prière que nous adressons encore à Dieu et que nous enseignons à nos familles. Il leur parla avec simplicité de l'amour de Dieu pour les enfants et leur raconta qu'un moineau ne tombe pas sans que l'œil divin le suive dans sa chute. Cette aimable coutume de l'initiation des enfants s'est longtemps conservée dans la primitive Église en souvenir de ces paroles du Sauveur. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas d'approcher. » Et ce fut peut-être l'origine des calomnies enfantées par la superstition qui accusaient les Nazaréens d'un crime qu'eux-mêmes, lorsqu'ils eurent triomphé, reprochèrent aux Juifs, celui d'attirer les enfants dans de hideuses assemblées afin de les immoler secrètement. Le père pénitent sembla en ce moment remonter avec l'innocent de ses enfants, à sa première vie, à cette vie où il n'avait pas encore été coupable. Il suivit le mouvement de leurs lèvres avec un regard de plaisir. Il sourit lorsqu'ils répétèrent les mots sacrés d'un air respectueux et soumis. Et aussitôt que la leçon eut cessé, ils coururent, joyeux et libres, se placer sur ses genoux. Il les pressa sur son sein, les embrassa à plusieurs reprises, et des larmes coulèrent le long de ses joues, larmes dont il aurait été impossible de découvrir la source, tant elles étaient mêlées de joie et de douleur, de repentir et d'espérance, de remords pour lui-même et d'amour pour les autres. Cette scène affectait particulièrement Apaïsides. Et en effet, il serait difficile de concevoir une cérémonie mieux appropriée à une religion de bienveillance, plus en harmonie avec les affections domestiques et qui fit vibrer une corde plus sensible du cœur humain. Dans ce moment, une porte intérieure s'ouvrit et un homme de petite taille entra dans la chambre. À sa vue, toute l'assemblée se leva. Il y avait une expression de respect profond et affectueux dans le maintien de chacun. Apaïsides, en le considérant, se sentit attiré vers lui par une irrésistible sympathie. Personne n'avait jamais regardé cet homme sans se sentir porté à l'aimer. Car le sourire d'un dieu s'était reposé sur son visage. L'incarnation de l'amour céleste y avait laissé une marque glorieuse et éternelle. « Mes enfants, Dieu soit avec vous !» dit le vieillard en étendant les bras. Les enfants coururent aussitôt à lui. Il s'assit à terre et ils se groupèrent sur son sein. C'était un beau spectacle que ce mélange des deux extrémités de la vie. Les ruisseaux sortant de leurs sources et le fleuve magnifique qui se dirige vers l'océan de l'éternité. Comme la lumière du jour à son déclin semble mêler la terre au ciel, dont elle efface les contours en confondant les sommets des montagnes avec les vapeurs de l'air, cette douce vieillesse souriante paraissait sanctifier l'aspect de tout ce qui l'entourait, confondre la diversité des âges et répandre sur l'enfance et sur l'âge mûr la lumière de ce ciel où elle était si près d'entrer. « Père, dit Olynthus, toi sur le corps duquel le miracle du Sauveur a eu lieu, toi qui as été arraché à la tombe pour devenir le vivant témoignage de sa miséricorde et de son pouvoir, regarde, un étranger est parmi nous, une nouvelle brebis est entrée dans le troupeau. « Laisse-moi le bénir, dit le vieillard. » Tous les assistants s'écartèrent. Apaïsides s'approcha de lui comme par instinct. Il tomba à genoux devant lui. Le vieillard posa la main sur la tête du prêtre et le bénit, mais à voix basse. Pendant que ses lèvres se remuaient, ses yeux étaient tournés vers le ciel et des pleurs, ces pleurs que les braves gens versent seuls pour le bonheur des autres, inondèrent son visage. Les enfants se tenaient de chaque côté du nouveau converti. Son cœur était comme les leurs, et il était devenu comme l'un d'eux pour entrer dans le royaume du ciel.